Donc ce que je propose, c'est que pour ce deuxième chapitre, qui est essentiellement composé de ce qu'on pourrait appeler un psaume, quelqu'un parmi vous puisse prendre la lecture de tout ce chapitre 2, après quoi on reviendra verset par verset pour une compréhension, si ce n'est totale, au moins meilleure de ce passage. Second, c'est très bien, ça peut être Jérusalem, ça peut être autre chose, sans que ce n'est pas français fondamental ou français courant, parce que c'est vraiment éloigné du texte hébreu. Colette, vous voulez... Oui, merci Colette.
Donc, Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit... Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la tête m'enfermaient pour toujours, et tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de belles idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre.
Merci beaucoup. Oui, à la fois, vous voyez, c'est bien la même structure. Et puis, dans le détail, vous voyez qu'il y a des mots un peu étonnants qui apparaissent au fil de l'eau. Et puis, on verra, en comparant avec l'hébreu, le bien fondé de la traduction que je vous propose. Et puis, en même temps, pour vous, c'est l'occasion d'interroger. Vous voyez, quand on n'a pas accès au texte hébreu ou au texte grec et qu'on veut quand même étudier le texte, c'est possible en prenant plusieurs traductions françaises et en voyant là où il y a des différences. En général, là où il y a des différences, là il y a de l'intérêt. Et quand il y a de l'intérêt, et bien après vous allez creuser, éventuellement, si vous ne comprenez pas comment vous débrouiller avec tel mot, vous allez voir votre pasteur et voilà, il vous répond. Vous allez voir Dorine, elle vous répond aussi. C'est ça le sacerdoce universel. Bien. Donc, allons-y pour le premier verset. Donc, on a tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire Jonas, Dieu et le fameux poisson. Donc, on va parler du poisson, mais avant de parler du poisson, on va parler de la première action. Donc, c'est soit... avaler, soit engloutir. L'idée, c'est de rentrer à l'intérieur. Donc, je vous rappelle les épisodes précédents. Dieu dit à Jonas de se lever, d'aller à Ninive pour, prêcher. Jonas fuit l'ordre de Dieu et il ne cesse de descendre. Il descend jusqu'au port et puis après, il descend dans le bateau, il descend dans la cale du bateau. Là, il y a une tempête. Tous les marins prient leur Dieu, ça ne fonctionne pas. Le capitaine demande à Jonas de prier son Dieu. On n'a pas l'impression qu'il s'exécute. Et puis finalement, il décide de tirer au sort et le sort tombe sur Jonas. Il le balance par-dessus bord. Et nous en sommes à ce point de l'histoire où Dieu intervient. Donc, Jonas a tout fait pour fuir Dieu et Dieu retrouve Jonas. On se souvient qu'il avait dit qu'il est le créateur du ciel, de la terre, de l'univers en quelque sorte, et que donc il y avait quelque part dans sa conscience l'idée qu'il ne pouvait pas échapper à Dieu, qu'il y avait une sorte de tentative un peu désespérée de vouloir échapper à Dieu puisqu'il est créateur de tout. Et donc Dieu le retrouve et il fait intervenir ce grand poisson pour l'avaler, pas pour le tuer. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant de repérer, c'est que on pourrait se dire Dieu va punir Jonas. En fait, on va voir qu'il ne le punit pas, on va le voir vraiment dans le texte, mais comprenez bien qu'il l'avale pour le préserver. Sinon, il l'aurait croqué. Je ne pense pas que... Enfin, sauf si vous mangez des petits poulpes vivants, mais vous n'avalez pas le poisson, vous le mâchez. Les poulpes, il faut les avaler, sinon ça, les tentacules coincent et ça s'étouffe, c'est pas bon. Donc, le fait qu'il soit avalé, c'est une manière de dire que Dieu met en place une stratégie pour arrêter la fuite de Jonas, et puis on va voir pour arrêter sa chute. Il n'arrête pas de descendre, et bien là, il va descendre encore un peu dans le ventre, et puis ça va s'arrêter. On va voir à quel moment il touche le fond, d'ailleurs. Bon maintenant, il faut qu'on s'attaque un peu à la question de ce grand poisson. Vous êtes venu là pour cette question du grand poisson. Il n'y a que ça qui vous intéresse. J'ai vu un couple arriver. La première chose qui m'a été posée, c'est « Est-ce que c'est bien aujourd'hui qu'on a le poisson ?» Alors, je vous donne la parole. C'est quoi ce grand poisson ?
Une baleine.
Alors, une baleine à ma droite. Pourquoi ça serait une baleine ? Alors, un cachalot.
Elle n'a pas de dents,
la baleine ?
Elle ne peut pas avaler les gros. Un bonhomme.
Ah oui, c'est ça. Il faut se dire quel est ce grand poisson qui pourrait avaler un prophète, même s'il n'est pas aussi grand que moi. Ouais. Un rorqual ?
Un
requin. Un grand requin. Ah, le requin est méchant. C'est vrai que les baleines sont extrêmement gentilles. On passe notre temps avec des baleines. Alors, la baleine est un mammifère, mais bon. Est-ce que, comme ça, juste avec ce verset, on peut en savoir un peu plus sur ce grand poisson ? Enfin, est-ce que vous avez des idées ? Vous voyez, on a lu tout le texte en plus, vous savez ce qui se passe.
Est-ce que c'était vraiment le bon mot ?
Alors, le...
Dans les translations et les traductions, tout ça.
Sur le plan de la traduction, il n'y a pas d'ambiguïté.
Et si jamais ça avait été traduit d'un autre texte antérieur dans une autre langue ?
Vous pensez à quoi ?
Parce que Ninive, c'était quand même...
Oui.
C'était du cunéiforme.
Oui, il y avait de l'acadien.
Et le cunéiforme, ça se lit dans un sens ou dans l'autre ?
Alors ça se lit de gauche à droite. Et l'hébreu se lit de droite à gauche.
Non, parce qu'à Ugarit, il y avait une école en antiquité qui enseignait à écrire le cunéiforme dans l'autre sens.
Mais à Ugarit, c'est du cunéiforme alphabétique. L'acadien, c'est du cunéiforme syllabique.
Oui, donc il peut y avoir eu un problème de traduction du mot.
Non, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'il y a une bonne utilisation du mot.
Mais on ne sait pas si avant les textes qui nous sont parvenus, s'il n'y en a pas eu d'autres.
Si, on sait plein de choses, justement.
Préserver quelqu'un qui va se noyer.
Oui.
En mer, on voit guère qu'un poisson qui puisse le récupérer.
Ça, c'est vrai. Ou un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Oui.
Parce que je vois après que Fazour est traduit, est-ce qu'on peut faire une approche symbolique sur le...
Oui, bien sûr qu'on peut faire des approches symboliques ou métaphoriques. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on précise que c'est un grand poisson ? On se doute bien que c'est un poisson qui est forcément plus grand que... Voilà. Donc, a priori, il y a une sorte de surdétermination, en fait. Il suffisait de dire qu'un poisson l'avait avalé pour qu'on se doute que c'était un grand poisson. Vous voyez, on n'aurait jamais pu dire que c'était un petit poisson. Bon. Donc, il y a un premier indice qui est pourquoi est-ce qu'il y a grand ? Bon. Et est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, le grand ? Alors, évidemment, il faut avoir lu tout Jonas pour ça, mais... Bon. La grande ville. C'est qu'en fait, si vous prenez votre Bible et que vous regardez, par exemple, le chapitre 3, qu'on va voir le mois prochain, le verset 2, c'est « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Et puis on retrouve la même chose au chapitre 4, verset 11. Le grand, l'adjectif grand, est appliqué à Ninive, la grande ville. Pour le lecteur, il y a un petit voyant qui s'allume et qui se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à explorer ? Et alors, pour explorer, on va sur les terres de la langue sumérienne et de la langue acadienne et on voit ce qui se passe. Et là, on découvre Ninou. Ninou, Ninou, Ninou. Ça vous dit quelque chose, Ninou ? Ninou, c'est le nom acadien de Ninive. Ninou, qui ? Voilà. Et alors, vous vous dites, bon, bah, ça ne nous avance pas beaucoup quand même, mais ça nous avance beaucoup si on regarde comment c'est écrit. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur de traduction, il y a juste une utilisation de la traduction, en fait. Alors, je vous fais passer cette feuille. En haut, je vous ai mis une proposition de découpage, et en dessous, je vous ai mis des sumérogrammes et des cunéiformes acadiens qui vont vous permettre de voir une chose assez étonnante. Oui ?
Qu'est-ce que c'est que l'Acadie ?
Ah non. Non, il faut se dire que c'est plutôt autour de Babylone, en fait. Pour vous donner un peu... C'est donc que l'acadien est une culture au sens de la langue. C'était la langue qui était l'anglais de l'époque. C'était la langue administrative. Il faut se dire que dans ce croissant fertile, il y avait tout d'abord eu Sumer qui avait été la capitale. Et puis ensuite, Ninive a été la capitale de l'Assyrie. Et puis ensuite, Babylone a été la capitale quand Babylone, en 614, a pris l'Assyrie. Voilà. Et puis ensuite, vous savez, c'est la Perse qui va prendre Babylone. Et ensuite, ça va être la Grèce. Puis après, ça va être Rome. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop qui, mais... Pardon ?
C'était une des étapes des gouvernements successifs de cette province.
Ouais. Donc, Sumer... au niveau de la civilisation, puis après la civilisation acadienne. Donc la chute de Ninive, c'est 614 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé sous la plume de Corinne Lanoir et François Smith, qui l'une a été professeure d'Ancien Testament, l'autre l'est toujours. Et donc, elles nous rendent attentifs au fait que les deux signes qui sont enchâssés pour dire Ninive, c'est d'une part la maison, ou le temple, c'est le même mot en fait, maison, temple, et puis poisson. Ça fait quasiment la poissonnerie en quelque sorte. Comme maison et pain, ça fait boulangerie, Bethléem. Et donc, le nom de Ninive, ça signifie palais ou maison, poisson. Et donc, dans la dynamique que vous vouliez entreprendre avec une lecture symbolique, on peut se dire que le prophète est d'ores et déjà au sein de Ninive. C'est-à-dire qu'en fait, le poisson, pour le dire plus clairement, parce que je comprends que vous froncez les sourcils, il est possible de comprendre ce texte comme Dieu met en place une pédagogie pour préparer Jonas à être au sein de Ninive. Cet épisode a pour fonction de préparer Jonas à être dans Ninive. Jusque-là, Jonas a fui, et voici la stratégie qui va permettre à Jonas de faire demi-tour en quelque sorte, d'avoir de meilleurs sentiments envers Ninive, et donc de se préparer à y être. Et on va voir de quelle manière. Donc, à la fois l'adjectif grand qui n'a pas vraiment son utilité, et puis poisson, nous met sur la piste de il ne faut pas prendre ce poisson au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de trouver le poisson qui, dans votre catalogue des poissons, vous fera comprendre ce qui s'est réellement passé. On est plutôt dans le registre symbolique. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à baleine ? Mais qui disait ça ?
Walt Disney.
Dans Pinocchio. Voilà. Et vous savez que dans l'histoire qui a été écrite en 1881 par Carlo Collodi, c'est un requin en fait qui attrape Pinocchio. Oui, c'est un requin. Et ensuite, Walt Disney en a fait une baleine. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Walt Disney en fait une baleine, c'est pas pour rien non plus. Et si vous avez pensé baleine, c'est pas pour rien non plus. Alors là, il faut passer par un autre circuit de traduction. La Septante va traduire par kétos, mégas, un grand kétos. Et vous connaissez les kétos parce que c'est ce qui donne les cétacés.
Ah, d'accord.
Ce qui est suffisant, parce que c'est assez. Et donc, il n'est pas impossible que du coup, cet animal dont il est question dans la traduction ait contaminé en fait notre compréhension de la scène. Et qu'on passe donc du kétos au cétacé, donc à la baleine. Dans notre imaginaire, ça fonctionne bien. Puis quand on veut l'expliquer aux enfants, vous voyez, si on ne veut pas se donner la peine de dire « attention, c'est une image », etc., on dit « bah, c'est une baleine » et ça rentre. Crème. Bien.
Pour un enfant, c'est plus facile à comprendre.
Oui, oui, mais d'un côté, on lui met dans la tête quelque chose qui est un peu faux. Alors, si on reste sur Pinocchio, c'est pas inintéressant du tout. Parce que si on se rappelle l'histoire de Pinocchio, donc c'est ce petit bout de bois qui va peut-être être brûlé, et puis finalement Geppetto en fait une marionnette. Et puis il y a une fée qui passe, la fée bleue, je crois. Et puis, je ne sais plus où quelqu'un d'autre. Non, c'est quelqu'un d'autre qui passe. Il y a un petit. Bon, peu importe.
Un petit cricket, Charlotte.
Je ne crois pas que ce soit Jiminy Cricket. Non, je crois que c'est encore un autre. Bon. Donc, c'est peut-être la fée qui déclenche l'animation de cette marionnette, parce que Geppetto n'avait pas d'enfant, etc. Bon, et puis, cette marionnette qui devient une sorte d'être animé doit être scolarisée. Sur le chemin de l'école, finalement, il se laisse séduire par des gens qui lui proposent de mener la grande vie, etc. Donc, il ne va pas à l'école. Et puis, quand il y va quand même, il fait preuve d'une paresse incroyable. Bon, bref, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Il se retrouve à faire un peu le zouave dans un cirque, je crois. Il y a l'épisode où il devient un peu comme un âne. Donc voilà, il fait un peu le monstre de foire. Et puis, vous savez qu'il a cette tendance à avoir le nez qui s'allonge quand il ment, quand la fée lui parle, etc. Bon, de fil en aiguille, il se retrouve dans l'eau à la recherche de Geppetto qui a été pris par ce grand... soit requin, soit baleine. Ils sont ensemble dans le ventre de l'animal. Et puis, c'est dans le ventre d'un animal qu'en fait, il va changer. C'est-à-dire qu'il va, en quelque sorte, prendre conscience qu'il a été en dessous de tout jusqu'à présent. Et il va entendre qu'il y a une sorte de remise en question qui correspond à ce que la fée lui avait dit. Il faut que tu sois un brave enfant et que tu écoutes la voix de ta conscience, le fameux Jiminy Cricket. Voilà. Et donc, c'est dans le poisson qu'il change d'attitude, qu'il va se convertir et qu'ensuite tout va s'arranger. Et je crois à la fin, il devient même un petit enfant comme tout le monde, en fait. Et il y a bien sûr la lecture psychanalytique qui est possible, c'est-à-dire le passage par le poisson où ils font un feu pour créer des sortes d'éternuements du grand poisson et qui va les expulser. C'est un peu comme ça, crée un peu comme des contractions qui sont un peu l'expulsion de l'utérus, etc. Et donc c'est comment on fait pour devenir enfant, comment on passe du stade de bébé à stade d'enfant et puis après devenir adulte, comme quelques contes de fées, quelques étapes sur le chemin de la vie d'adulte. Voilà. C'est pas tout à fait ça pour Jonas, mais on n'est pas loin de ce rite initiatique qui va permettre à Jonas de changer d'attitude par rapport à ce que nous avons vu au premier chapitre. 3 jours, 3 nuits, vous vouliez aller là-dessus. Est-ce que vous avez des idées sur ce que signifient ces 3 jours, 3 nuits ?
Christ.
Oui, mais à cette époque-là, le Christ, il n'est pas encore passé. Donc le Christ va utiliser le signe de Jonas, mais qu'est-ce que le signe de Jonas à une époque où mort et résurrection de la passion de Jésus n'a pas encore eu lieu? Vous voyez, il ne faut pas mettre les choses dans le mauvais sens. Il faut bien comprendre Jonas pour comprendre Jésus.
Ninive, c'était une ville. Il fallait 3 jours, c'est ça, pour la traverser?
Alors, on pourrait se dire que c'est l'étendue, effectivement. Mais ce n'est pas la seule fois où il y a 3 jours, 3 nuits dans la Bible. Et donc, on peut se dire, avant Jonas, il y a eu des 3 jours, 3 nuits, ou concomitamment. Qu'est-ce que signifient ces 3 jours, 3 nuits ? Et vous allez voir que c'est pas très loin de la lecture psychanalytique, en fait.
Et oui. Le frère de Joseph. Joseph, quand il est dans le puits, combien de temps il est resté? J'en fais plus.
Non.
Ah non.
Non, ça, c'est, je crois pas que ce soit trois jours, trois nuits, non. Il y a deux, trois même passages qui sont assez connus. Le passage le plus connu, je pense que c'est Genèse 22, c'est quand on demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Voilà. Entre le moment où ils partent et le moment où le sacrifice va avoir lieu, c'est trois jours, trois nuits. Trois jours, trois nuits pendant lesquels Isaac ne cesse de dire « Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham lui répond « Dieu pourvoira. » Il y a aussi le tout début du livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 11. C'est avant que le peuple entre en terre promise, donc avant le passage du Jourdain, et c'est la préparation pour entrer en terre promise. Et puis il y a un troisième texte qui est assez connu, c'est 1 Samuel 9, on l'avait étudié il y a peut-être deux ans ou trois maintenant. 1 Samuel 9, le peuple vient de demander un roi au chapitre 8, et au chapitre 9 on fait la découverte de Saül, qui va être le premier roi, le premier messie. Et que fait notre brave Saül? Il part à la recherche des ânesses que son père ne trouve plus. Et c'est un périple qui dure trois jours, trois nuits. Et donc... on a aussi dans le livre d'Osée, Osée fait partie des 12 petits prophètes. Alors les petits prophètes, c'est toujours compliqué à trouver, mais en Osée chapitre 6, versets 1 et 2. Donc, Osée chapitre 6, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il y a, en fait, dans ce passage des trois jours, l'idée de la traversée du deuil. C'est-à-dire que c'est vraiment le rite de passage. C'est mort et résurrection. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira qu'il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Jonas. En ce sens-là. C'est-à-dire que Jonas est dans le ventre de ce poisson pour un rite initiatique, pour un itinéraire initiatique qui va lui permettre de passer d'une situation de départ à une situation d'arrivée. Et en l'occurrence, c'est d'arriver à une situation où sa vie est augmentée. Pour faire court avec Genèse 22, Isaac qui finalement n'est pas sacrifié. Quand on regarde le début et quand on regarde la fin, c'est intéressant. Le début, il y a donc Abraham et Isaac qui partent, et le texte hébreu dit « ils partent deux en un ». Vous voyez, c'est un rapport fusionnel. Et Isaac, à cette époque, a peut-être 33 ans, comme l'âge supposé de Jésus lorsqu'il doit mourir. Autrement dit, il est adulte, il est encore dans un rapport fusionnel avec son père. Et pour sacrifier, il faut couper. Et il y a cette idée symboliquement de couper le cordon ombilical, il faut le faire aussi avec son père. Et donc, c'est à la condition qu'il y ait ce meurtre symbolique qu'Isaac, peut-être, va pouvoir devenir adulte. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de relation entre Abraham et Isaac, ils repartent chacun de leur côté, et Isaac va trouver Rebecca, son épouse, près d'un puits. Il va se marier, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, comme dans tous les contes de fées. Quoi, vous voyez. Donc, c'est le rite de passage. L'entrée en terre promise, on voit bien, c'est passer de la condition d'esclave. On est encore dans l'Égypte, la traversée du désert. On n'est pas encore vraiment libre et on va pouvoir être libre parce qu'on a un lieu pour exercer sa liberté. Et, donc, et on franchit le Jourdain qui est coupé en deux et on marche à pied sec, terre sèche, la Yabasha, comme ici d'ailleurs. Et puis 1 Samuel 9, c'est le rite initiatique pour devenir roi. Quand on regarde 1 Samuel 9, c'est troublant de voir à quel point Saül est nul. Mais vraiment, il est incapable de quoi que ce soit. Heureusement qu'il est avec un Nahar, un jeune homme, qui l'aide, comme un aide de camp finalement. Et quand Saül est sur le point de dire « Bon, allez, c'est fichu, on rentre à la maison, papa va s'inquiéter, etc. » Papa va s'inquiéter. Il y a le jeune homme qui dit « Non, non, il y a un voyant là-bas, on pourrait aller le consulter, peut-être qu'il pourra nous renseigner. » Et c'est comme ça qu'ils vont faire la rencontre avec Samuel, que Saül va recevoir l'onction, qu'il va recevoir l'Esprit de Dieu, qu'il va être même capable de prophétiser, ça va devenir le premier Messie, et donc il va pouvoir exercer des responsabilités, alors qu'il était assez irresponsable jusque-là. Et puis là, vous l'avez entendu avec Osée, il s'agit de passer de la situation où on est fautif à la situation où on est pardonné et la vie est à nouveau possible. Voilà. On n'est plus rongé de l'intérieur, la vie est à nouveau possible. Donc, un temps de maturation, un temps de deuil pour arriver à un niveau supérieur de vie. Si vous voulez regarder comment c'est traité dans le Nouveau Testament, donc, il y a le signe de Jonas dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Et puis vous avez aussi dans Luc au chapitre 11. Voilà. Bah, vous avez Matthieu 12 et puis Matthieu 16, sauf erreur de ma part. Oui. C'est relativement à cette demande des miracles. Et puis, donc, il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. »
C'est Luc, ça.
Ça, c'est Matthieu, chapitre 12, verset 39 et suivant. Ensuite, première progression. Jonas qui prie l'Éternel, son Dieu, depuis les entrailles du poisson. C'est ce qu'il avait refusé de faire jusque-là. Quand le capitaine lui avait dit « Mais prie ton Dieu !» Au fond, il n'y avait pas eu de suite narrative. Et donc, on peut se dire que Jonas ne l'avait pas fait. Et là, la menace a visiblement été... Enfin, disons que l'expérience de la mort imminente a été suffisante peut-être pour un premier déclenchement. On va voir que cette prière va être un grand déclenchement.
En fait, oui. Jusque-là, Jonas était quand même dans la culpabilité.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était dans la culpabilité ?
Mais parce qu'il a dit au verset 12, au chapitre...
Chapitre 1.
Oui. « Portez-moi et lancez-moi vers la mer, et la mer s'apaisera, car je sais que c'est à cause de moi
oui.
que cette grosse tempête est sur vous. »
Moi, je pense qu'il est conscient de la causalité, mais je ne parlerai pas de culpabilité. C'est-à-dire qu'il est conscient que c'est à cause de lui que ces choses arrivent, mais s'il avait eu vraiment ce sentiment de culpabilité, bah, au fond, il aurait prié, se serait retourné vers son Dieu. Là, il sait juste que les autres marins n'y sont pour rien. Il est dans une certaine mesure responsable, en faisant ce qu'il faut pour ne pas entraîner tout le monde dans sa propre chute.
Ah oui.
Mais au fond, il est assez indifférent. C'est-à-dire qu'il ne demande pas pardon, par exemple. Et il n'est pas dans une prière de repentance au chapitre 1. Oui. Et donc, j'hésiterais à parler un peu de culpabilité à ce moment-là. Par contre, il est conscient qu'il est le nœud du problème.
Oui. Et c'est ça quand même qui est très étrange dans Jonas, parce qu'il désobéit.
Oui.
Puisqu'on lui dit d'aller d'un côté, et il va justement du côté opposé.
Oui.
Et la désobéissance, quand même, dans d'autres textes, c'est assez, disons, pour Saül, par exemple, il a désobéi, et à ce moment-là, il perd la royauté.
Exactement.
Et là, et pourtant, il a dit, en fait, j'ai péché.
Oui, il la perd une première fois pour n'avoir pas obéi à Samuel, simplement.
Et là, il désobéit, et finalement, en effet, il ne dit jamais « j'ai péché ».
Exactement. Mais on va voir qu'il y a, sinon une repentance, du moins une profession de foi. Et c'est peut-être sous-entendu que s'il y a cette confession de foi sincère, c'est qu'on reconnaît qu'il y a eu aussi un acte de repentance, en quelque sorte. En tous les cas, une prise de conscience salutaire.
Les enjeux, excusez-moi, ne sont oui. pas les mêmes entre un roi et Jonas. Jonas, qui sait, c'est pas grand-chose, Jonas.
Bah, raison de plus pour pas... Non mais on pourrait dire, a fortiori, si le roi est quelqu'un d'important, on pourrait essayer de faire en sorte qu'il change d'avis, on pourrait essayer de le sauver. Là, c'est Jonas qui est sauvé. Alors que Saül, finalement, il est juste condamné. Il est puni, plus que condamné d'ailleurs.
Mais parce que ses actes sont importants pour la vie de son peuple, est-ce que Jonas...
Oui, mais...
Donc, il peut lui pardonner plus facilement, par contre.
Ben, je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, ce que Jonas... Vous voyez, ce qui se passe, c'est que Ninive pêche. Et donc, il faut qu'un prophète aille pour que les Ninivites changent de comportement et cessent de faire le mal. Oui. Vous voyez, c'est un peu une sorte d'ambassade. Oui. Il s'agit d'aller dire au tsar de tous les Ninivites qu'il faut arrêter ce comportement, que ce n'est plus possible. Et lui, il est plutôt à dire non, je ne vais pas du tout m'en préoccuper. Donc, il y a quand même le sort de milliers de personnes en jeu. Alors que Saül, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir sauvé quelqu'un. Il perd la royauté parce qu'il n'a pas passé par le fil de l'épée les ennemis. Ou alors parce qu'il a fait un sacrifice à Dieu. Vous vous rendez compte que la première fois qu'on dit à Saül que sa royauté disparaît, c'est parce qu'il n'a pas attendu le retour de Samuel pour faire un sacrifice à Dieu. Vous voyez la faute qu'il a commise ? C'est incroyable, hein ? Donc, c'est extrêmement paradoxal comme situation. Et ce qui est frappant dans le verset 2, c'est que Jonas cesse de fuir Dieu et il s'adresse à lui. Au fond, il est là le premier bouleversement. On lui avait proposé de prier Dieu sur le bateau, il avait refusé. Là, il le fait sans que personne ne lui demande. Jusque-là, il avait fui Dieu et là, il s'adresse à Dieu. Donc, vous voyez, déjà une sorte de teshuva, un retournement. Et au verset 2, on voit que c'est précisé « depuis les entrailles du poisson ». On imagine bien. Donc, pourquoi il y a cette précision ? Eh bien, peut-être parce que je vous ai dit que le nom du poisson, enfin le nom de Ninive, je veux dire, c'était aussi bien la maison que le temple du poisson. Et il va y avoir, je pense, l'idée que Jonas est là, en fait, dans un temple, et peut-être dans la partie la plus sacrée du temple. Et le grand prêtre, une fois par an, entrait dans le Saint des Saints pour dire le nom de Dieu. Et là, en fait, Jonas prie Dieu par son nom, en quelque sorte, depuis les entrailles du poisson, qui font figure de temple, finalement. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas une lecture protestante des lieux de culte. Donc, il y avait vraiment des lieux sacrés où on pouvait prononcer les psaumes, etc. Et que le reste du temps, chez soi, il n'y avait pas un culte domestique. Et donc, c'est pas du tout le même mot, hein, qu'il n'y ait pas de confusion en hébreu. Il ne s'agit pas de dire que c'est un temple, mais il va y avoir une sorte, peut-être, de contamination du sacré, au sens protestant du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu odieux pour prier Dieu. Oui.
Je voyais aussi le mot en hébreu, mais « et », c'est aussi l'intérieur de la personne.
Oui.
Le siège des sentiments. Alors, du coup, on pourrait se dire aussi que, comme vous avez dit, de jouer un retournement, mais sur lui-même, et que c'est de lui-même, en fait, que ça sort.
Oui. Oui.
Qu'il y a comme dans... quand Dieu dit à Abraham, lève le bras, va vers toi, là aussi, c'est pareil.
Oui.
C'est un retournement vers soi.
Une introspection.
Une introspection pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Mmh.
Et effectivement, quand on va voir « est-ce qui est dit » et le temps des verbes, il y a une sorte de relecture personnelle. Au verset 1, le poisson, il est au milieu de la deuxième ligne. « Adak », c'est en trois lettres. Ah ben, j'ai pas le tableau, je vais pas pouvoir le montrer. Bon. Et puis, en bas, c'est le dernier mot. Dans le verset 2, c'est le dernier mot. Eh ben, au verset 1, il est au masculin, et au verset 2, il est au féminin. Et vous voyez, c'est intéressant parce que je reprends l'histoire de l'intériorité, des entrailles, peut-être d'une localisation un peu utérine. La Septante a traduit par un masculin, mais on peut se demander si il n'y a pas là quand même un petit clin d'œil supplémentaire pour faire entendre qu'il y aurait vraiment une métaphore qui est de l'ordre de l'initiation et de la venue au monde. Voilà, une sorte de métaphore et un clin d'œil vis-à-vis de la maternité. Donc, le verset 3, il dit, c'est Jonas qui parle, « J'ai clamé de détresse pour moi vers l'Éternel, et donc il m'a répondu du ventre du Sheol. J'ai crié, tu as entendu ma voix. » Sheol, donc je vous l'ai mis en jaune. Parce que c'est le séjour des morts. C'est un terme très connu, le Sheol. Et les verbes sont au passé, donc c'est en ce sens que c'est bien une relecture. Et Jonas utilise le verbe qu'on avait au premier chapitre, verset 6, avec le capitaine. C'était le verbe utilisé par le capitaine, et cette fois, c'est Jonas qui l'utilise. Donc, je vous redis juste le verset 6, parce que vous n'avez peut-être pas de Bible sous les yeux. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et invoque. » En fait, le verbe « invoquer », c'est « kara » dans les deux cas, donc « clamer »,« invoquer », c'est, il faut voir que c'est le même terme en hébreu. Donc là, on a le début d'une lamentation classique. Le ventre du Sheol, c'est quelque chose donc, qui correspond au lieu des morts. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand je vais vous lire le Ésaïe chapitre 38, verset 18, vous allez me dire, mais alors pourquoi ? On en est à « Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. » Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. Et après, ça continue. C'est le vivant qui te célèbre, pas celui qui est au séjour des morts, en quelque sorte. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose de paradoxal. Il y a une sorte de profanation, là, une fois de plus. C'est que une louange à Dieu vient du Sheol, alors qu'en fait, techniquement, on pensait que ce n'était pas possible. Vous voyez, dans l'imaginaire, le séjour des morts, c'est là où il n'y a plus de célébration possible pour Dieu. Et on en voit une. Jonas transgresse, en quelque sorte, cet interdit. Et, en même temps, s'il est au Sheol, on peut se dire que il est vraiment le plus éloigné de Dieu. Et donc, sa fuite de Dieu a réussi, mais même en ayant réussi, il n'a pas réussi à fuir Dieu. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Oui. On ne peut pas aller plus loin de Dieu, et même en étant au maximum, Dieu est encore là. C'est un peu comme le psaume 139. Voilà, c'est ça. Voilà, je
te trouverai quand même.
Oui, c'est ça. Et alors, en général, là, il y a deux attitudes. Alors, je ne sais pas comment ça peut se distribuer entre nous, mais quand on lit ce genre de choses, les attitudes contrastées sont soit l'horreur, soit le soulagement. Le soulagement, c'est que finalement, il n'y a pas de lieu sans Dieu. Soit c'est l'horreur, parce qu'en fait, on est toujours sous le regard de Dieu.
Oui.
Voilà. Et alors, je ne sais pas si pour vous, certains estiment qu'effectivement, cette omniprésence de Dieu est plutôt inquiétante qu'un soulagement. Ouais, je vois où
moi,
ça opine.
Oui,
ah d'accord, d'accord, très bien. Parce que je me demandais si souvent je le constatais dans les groupes, il y a un peu une ligne de partage entre hommes et femmes. Mais je suis content que ça soit transgressif, même si j'en ai vu opiner là quand même, en disant peut-être un petit peu l'inquiétude quand même. Bon. Toujours est-il que le rédacteur indique qu'il n'y a donc aucun lieu sans Dieu, pas même le Sheol, et on peut comprendre que le Sheol est vidé de sa substance. C'est-à-dire que le Sheol qui semblait être totalement hermétique à Dieu est profané au sens où il ne peut même... C'est Paul, mort, où est ta victoire ? Au fond, tu n'es même pas capable d'empêcher Dieu de passer. Voilà. Faut le prendre comme ça, je pense. Et du coup, on voit que le poisson a vraiment sauvé Jonas. C'est-à-dire que le poisson a mis un terme à la fuite de Jonas, et le poisson, c'est en quelque sorte le réceptacle, du coup un temple, qui permet la relation directe entre Jonas et Dieu. Donc comme je disais tout à l'heure en aparté avant que la séance commence, c'est tout ce qui a manqué au premier guitariste des Stones, Brian Jones. Vous voyez, Jones, Jonas, c'est pas très loin. On l'a retrouvé noyé dans sa piscine, il lui a manqué le poisson de Jonas. On a le poisson de Jonas, il aurait fallu le poisson de Jones aussi. Donc ce côté paradoxal ne cesse de traverser le livre de Jonas, et y compris par rapport à ce que vous disiez, c'est quand même bizarre qu'on sauve Jonas, ou c'est bizarre qu'on sauve Saül, on le prend dans le sens qu'on veut, mais au fond on s'attend à ce que Dieu punisse ceux qui lui désobéissent. Et bien là, c'est une sorte de miséricorde qui va chercher ce qui était perdu, et il va le chercher le plus loin possible. C'est vraiment la figure de la grâce, et on parlera de la grâce à un moment donné. Tu m'as jeté au fond dans le cœur des mers et un fleuve m'entoure. Tous les brisants et tes rouleaux sont passés sur moi. Donc vous voyez, on continue à dégringoler finalement. Ou on ne peut pas dégringoler plus, mais on voit que Jonas a continué à dégringoler. On touche le fond là.
Au fond.
Au fond. Oui.
Je voulais revenir sur le mot détresse.
Oui.
À Tsara. Parce que c'est aussi l'hostilité, la nuit. Et ça m'a toujours en fait marqué en fait, parce que c'est la détresse, l'angoisse. Et en hébreu, c'est le même mot pour l'ennemi, l'adversaire.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est très très fort de la part en fait d'une langue de mettre en un seul mot ces deux éléments en fait qui sont justement très proches. Finalement, parce que pour lui, sa propre angoisse, parce qu'il a refusé, comme vous avez dit, en fait, il a fui, parce qu'au début, vous aviez dit aussi, il ne voulait pas, en fait, que les Ninivites se convertissent, en fait.
Ah, je l'ai dit, j'ai cafeté, mais oui, parce qu'en fait, c'est ça.
Donc, il y a une angoisse. Et là, oui, et c'est la détresse aussi. Et oui. C'est à partir de là, cette prise de conscience aussi, peut-être, qui fait qu'il va
ouais. En fait, il s'oppose à tout. Et donc, il est face à des oppositions massives, constantes. Y compris la mer qui s'est déchaînée. Les brisants, c'est les vagues, finalement. Hein. C'est ce qui risque de briser un bateau, vous voyez. Et c'est vraiment typique du psalmiste. Le psalmiste est angoissé parce que il y a les adversaires, soit qui vont dire du mal de Dieu, soit qui vont l'emprisonner comme on emprisonne quelqu'un dans le filet de l'oiseleur, où il va avoir l'impression d'être dans une chausse-trappe, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'angoisse sans une raison extérieure, ce qui est intéressant parce que s'il y a une raison externe, il suffit de neutraliser cette raison pour que l'angoisse cesse. Et ce qui va être constaté par Jonas, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur à la raison de cette angoisse, et c'est ça qu'il va célébrer. La présence de Dieu est finalement plus forte que la puissance ou la force d'opposition.
C'est comme dans le psaume 42, c'est la même chose. C'est
oui.
Quasiment les mêmes paroles.
Alors, on a le psaume 42 que vous connaissez bien parce que c'est comme un cerf altérébrame. Mais on a aussi le résultat de cela dans le psaume 23. Au milieu du psaume 23, le psalmiste peut s'asseoir en face de l'adversité. Il ne craint aucun mal grâce à son berger. Hein, c'est l'Éternel est mon berger. Du coup, il peut s'asseoir en face de l'adversité. Parce que Dieu oint d'huile sa coupe, enfin oint d'huile sa tête et sa coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai ou j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et donc on a cette idée que la présence de Dieu est ce qui nous donne la confiance nécessaire pour pouvoir faire face à l'adversité sans craindre d'être terrassé.
En fait, quelque part, comme vous l'avez déjà dit, il le prépare à aller à Ninive.
Oui.
Quelque part, il lui dit, de toute façon, je serai là.
Oui.
Et donc, il y a une réflexion qui est faite là-dessus. Ce temps, entre parenthèses, prépare ce qu'il ne voulait pas faire.
Oui, bien sûr. Et ça lui permet de prendre conscience qu'il est capable de se tenir face à l'ennemi.
Oui. Parce que
les Ninivites sont des ennemis.
Oui, oui.
Il faut bien se souvenir que c'est Ninive, capitale de la Syrie, oui. Qui a détruit le royaume du Nord.
Oui, oui.
Donc, ce sont des ennemis.
Et Ninive, c'est pareil.
Qui a envie d'aller voir un ennemi? Enfin, tous les présidents qu'on a entendus, tous les présidents de la République française qu'on a entendus ces derniers temps disent à quel point c'était vraiment terrifiant d'être au Kremlin. Bon, donc on n'a pas envie d'y aller. Bon, il faut quand même y aller. Et on a, en fait, ici, quelque chose qui permet de pouvoir se consolider de l'intérieur pour pouvoir faire face. Et ça, c'est transposable dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. Est-ce que la vie spirituelle n'est pas là pour nous renforcer de façon à ce qu'on ne soit pas abattu par tout ce qui nous arrive ? Et ce n'est pas forcément des choses en termes d'adversité, mais des fois, on a tellement de choses à faire qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on va être submergé, que c'est trop compliqué. Ouais. La complexité de la vie peut être parfois un motif pour être abattu au sens un peu de la dépression d'ailleurs. Et la dépression, c'est quand on tombe, la chute libre. Ben, Jonas, c'est une chute libre en bonne et due forme. Et la mer, vous voyez, on ne le mesure pas assez, mais c'est vraiment le lieu de l'horreur pour les Hébreux qui ne sont pas du tout un peuple de marins. Eux, c'est la terre sèche qui est le lieu du salut. Et la mer, c'est plutôt le lieu de l'abîme. Comme il y a beaucoup de citations de psaumes, je vous ai pas fait la liste de toutes les citations du psaume, mais le psaume 46, par exemple, verset 3, ça peut être une petite citation quand même, psaume 46, verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Donc c'est cette idée selon laquelle la mer est capable d'engloutir. Et donc il vaut mieux être englouti par le poisson de Dieu que par la mer qui est en fait le lieu où vivent les monstres marins, c'est le lieu où des forces telluriques se déchaînent.
C'est bien la mer qui est devenue l'image des nations aussi. Pour les Hébreux, j'ai bien entendu. C'est...
J'aurais plutôt dit les îles.
La mer, la terre, c'est ce qui rapproche à Israël, mais la mer, c'est l'univers des nations. C'est
ouais. Monstres, ah oui, d'accord. Oui, d'accord.
De la mer,
oui, entendu dans des... Au sens de l'hostilité, alors. D'accord.
Les Hébreux ont peur de la mer ?
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est pas, ils vont pêcher sur le lac de Galilée, mais en faisant de la pêche côtière. Oui. Et en fait, vous voyez, cette histoire de mer, c'est un motif qu'on retrouve assez souvent. Exode 14, c'est la traversée de la mer des gens. Et ben, on la retrouve ici, en fait. Parce que... On va le voir tout à l'heure, mais il y a le roseau, c'est Souf. Et en fait, c'est la mer des gens, la mer des roseaux. Mais c'est du coup la mort. La mer, c'est la mort. Oui, il faut le prendre comme ça, en fait.
Chez les Hébreux.
Chez les Hébreux, oui. Vous voyez, quand il y a la traversée de la mer, des gens, au fond, on voit que c'est juste capable de tuer. Et donc, il faut qu'elle soit coupée en deux. Et quand les Hébreux sont passés, elle se referme sur les Égyptiens qui meurent. C'est un peu le signe que la mer, en fait, c'est une arme. Jérémie 49, à partir du verset 23. Sur Damas. Hamat et Arpad sont dans la honte car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles défaillent, c'est une tourmente dans la mer qui ne peut se calmer. Damas est affaiblie, elle se tourne pour fuir et un tremblement s'empare d'elle, l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme qui accouche. Il y a en permanence la mer comme menace. Et ça tient aussi au fait que les invasions, c'est fait par la mer. Les peuples de la mer, on parle des peuples de la mer, sont des peuples qui arrivent des îles, crétoises, etc. Et vous savez, quand on lit l'Odyssée, il y a aussi quelques passages qui sont relatifs à la mort. Si vous prenez le chant 12 de l'Odyssée, les vers 219 à 225, vous verrez aussi comment la mer est traitée. C'est le lieu de toutes les inquiétudes, en fait. Donc, le verset 5, Jonas qui dit qu'il a été rejeté de devant tes yeux, mais je continuerai à regarder vers le temple de ta sainteté. C'est le moment où on va voir explicitement des termes qui sont en rapport avec le temple et le salut. En jaune, je vous ai mis le fond du fond. Et en vert, ce qui est plutôt de l'ordre du temple et du salut de la grâce.
Parce que le vert, c'est l'espérance.
Exactement. C'est la couleur de l'oasis que ceux qui traversent le désert ont hâte de retrouver. Ou alors c'est parce que la mer a tourné, je pense. Ce qui est bizarre dans ce verset 5, c'est que Jonas ne dit pas que c'est lui qui a décidé de fuir loin de Dieu. Vous voyez ? j'ai été rejeté de devant tes yeux. Comme si il avait été chassé, effectivement, pour reprendre ton terme. Vous voyez, là, on n'est pas encore dans la vérité par rapport à la narration.
Mais quand même, il a été jeté par-dessus bord.
C'est lui qui l'a demandé.
Ah oui, c'est vrai.
Et puis, il a été rejeté loin des yeux de Dieu dès le moment où il a fui en voulant aller à Tarsis. Et ça, c'est Jonas qui se lève pour fuir.
Ah oui, d'accord.
Et vous voyez, vous souvenez, je vous avais dit, en principe, il aurait fallu écrire « Jonas se leva et il s'enfuit ». Mais non, c'est « il se leva pour fuir ». Je vous ai laissé entendre qu'en fait, il n'allait pas y arriver. Il n'y arrive pas, le petit canaillou. Bon, il y a une petite allusion au psaume 31-23. En fait, c'est une collection de citations. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire la collection des citations, mais je pense que dans certaines de vos Bibles, vous devez avoir les allusions. Psaume 31, verset 23. « Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. » Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Voilà, on entend les mêmes termes. Je le lis dans la traduction de Louis II, mais voilà. On a oui, exactement la même logique.
Excusez-moi, ça veut dire en fait que ceci, en fait, parce que déjà au verset 3, on retrouve des choses du psaume, enfin je ne sais plus, là, il y avait un psaume 120, quelque chose comme ça, on retrouve des bouts,
oui.
Et ça serait finalement un texte qui aurait repris en fait différents bouts de psaumes.
C'est une collection de psaumes, oui.
C'est ça, et mis dans ce texte, dans le cadre narratif.
Oui, oui, oui. C'est un psaume composé de toutes pièces, en fait, à partir de citations d'autres psaumes. Ou, en tous les cas, ça n'a rien d'original. Ce sont des formes classiques que l'on trouve dans la prière israélite.
Est-ce qu'on peut donner une définition un peu simpliste, peut-être, du mot du psaume ?
Oui.
Qu'est-ce qui le caractérise par rapport aux autres formes de discours ?
Alors, disons que psaume, il faut l'entendre comme prière qui était susceptible d'être chantée.
C'est ça que
voilà. Les Tehillim, les psaumes, ce sont en fait des formes de louanges. Alors, quand vous lisez le livre des psaumes, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas que de la louange. En fait, si. Parce que même quand vous criez votre détresse et que vous la criez à Dieu, au fond, c'est que vous estimez que Dieu est capable d'en faire quelque chose. Et donc, c'est une louange. Quand vous êtes en colère contre Dieu, c'est que vous estimez qu'un autre ordre du monde est possible et que Dieu peut vous rendre capable de participer à cet autre ordre du monde. Et donc, c'est une forme de louange. Au fond, à partir du moment où vous priez, c'est quelque chose qui est de la louange puisque vous reconnaissez à Dieu une puissance capable de faire quelque chose de ce qui vous torture.
Quand une prière se chante pour la louange ou pour la détresse.
Disons que les psaumes, c'est d'abord le fait que c'est dans le recueil des psaumes.
Oui, parce voilà. Que l'histoire comme ce texte-là est en dehors,
oui.
je ne comprenais pas en quoi il se rattachait à cette catégorie.
C'est parce que, comme le dit Dorine, en fait, c'est une littérature qui est conforme à ce qu'on lit dans les psaumes. C'est les mêmes phrases, en fait. C'est comme si on avait pris un petit verset ici, un petit verset là, et qu'on les avait mis ensemble. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qui est dit, parce que c'est une sorte de composition assez formelle, mais c'est la progression. C'est que ça nous permet de voir la progression du prophète, enfin d'ailleurs de Jonas, qui va devenir prophète. Et c'est pour ça qu'on vous voyez, au niveau du code couleur, on se déplace vers le vert. Il y a encore un petit résidu de jaune qui arrive. Et on le voit avec le plan que je vous ai proposé, que je tire de Claude Lichter, qui a fait plusieurs études sur le livre de Jonas. Vous voyez, on peut voir que c'est une structure concentrique. Il y a une narration au début et une narration à la fin qui se répondent. Jonas est englouti, Jonas est vomi. Et puis il y a un deuxième niveau. C'est d'un côté la supplication et de l'autre côté l'action de grâce. Donc, d'un côté, il y a la détresse, et puis de l'autre côté, il y a la foi. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux fois la question du péril et du retour à Yahvé,
oui.
À l'Éternel. Donc, ça, on le voit avec le code jaune. Et puis, au milieu, il y a l'isolement de Jonas dans l'abîme. Donc, le verset 6 et le début du verset 7. C'est là qui est, en fait, le point de basculement. Là, on n'est pas encore arrivé au fond du fond. On va bientôt y arriver.
En fait, c'est une initiation à devenir prophète.
Oui, je crois que c'est comme ça qu'on peut voir les choses. C'est une sorte de zoom sur l'activité prophétique. Souvent, on a une vocation de prophète. Le prophète dit « Oh non, je ne suis pas capable ». Et puis bon, le verset suivant, ça y est, il est capable. Là, c'est une sorte de zoom sur ce « je suis pas capable » ou « je ne veux pas » en fait. Mmh. Et on voit un long processus de maturation.
Oui.
Au fond, ce texte, c'est l'ensemble du livre de Jonas, c'est comment on fait pour accepter une parole de Dieu. Vous pouvez penser à vous-même. Je présume que depuis que vous êtes enfant et que vous réfléchissez aux questions de religion, de théologie, de Dieu, vous avez un peu changé de façon de dire Dieu, de regard sur Dieu, de ce que Dieu signifie. Votre confession de foi peut-être même évolue. Et je présume, en tout cas pour moi ça a été le cas, quand il y a des changements assez importants sur la représentation de Dieu, et on passe des images de l'enfance à des images d'adulte, en fait on a l'impression que tout s'écroule, quoi. On a l'impression que jusque-là on a cru n'importe quoi. Voilà. Des vraies falaises. Vous voyez, c'est la mort de l'enfant. Bon, la première fois c'est extrêmement inquiétant parce qu'on se dit, mais du coup je deviens athée en fait. Mais grosso modo, au bout de 3 jours, les choses se reconfigurent. Parce que si on prend sérieusement le temps de penser à ce qui se passe en nous. Bon, bah, cette maturité est en quelque sorte décrite. Vous voyez, il y a une sorte de combat de Jonas contre Dieu et contre lui-même. Si on reprend notre ami Pinocchio, il est comme bien des personnages, il n'a pas envie de devenir adulte. Peter Pan n'a pas envie de devenir adulte. À tel point qu'il y a même le syndrome Peter Pan, ce sont les enfants qui veulent rester les adolescents qui veulent rester adolescents. Qui ne veulent pas être adultes et qui préfèrent vivre dans le monde merveilleux des fées, etc. Bon. Moi, je pense que c'est vrai pour tout le monde. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de parler pour vous, mais moi, ça m'a fait un peu mal le jour où je me suis dit qu'en fait, ma spiritualité, mon Dieu, ma théologie ne pouvaient plus être finalement le distributeur automatique de ce que je voulais. Oui. Quand j'ai perdu un peu le rapport magique.
Même à l'âge adulte, rien n'est jamais acquis. Enfin, il y a également un devenir de la parole.
Oui, et la parole prend la place de la pensée magique. Mais c'est pas fini.
C'est pas fini, c'est pas accompli.
Non, je ne pense pas être arrivé au bout du cheminement non plus, vous inquiétez pas. Bah, voilà, c'est pas parce qu'on est un professionnel de la religion que ça y est, tout est réglé. Ça se fait en cours de route aussi, hein. Ça peut être plus vite, mais c'est tout. Hein. Donc, on a ici notre Jonas qui évolue, qui se métamorphose, il y a et de la transgression et de la transcendance. Bon. Le verset 6, c'est là où on voit bien Yam Sof. Si vous prenez en hébreu la deuxième ligne, le mot qui est tout à droite, c'est Souf, et c'est exactement le terme utilisé dans Yam Sof, c'est-à-dire la mer des joncs que traverse le peuple hébreu. C'est une plante aquatique qui est caractéristique de l'Égypte. Et c'est peut-être des joncs ou peut-être des algues, c'est un peu difficile de savoir. Mais par exemple, dès le début du livre de l'Exode en Égypte, on en parle, on oublie toujours, Exode 2, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. C'est Moïse. Voilà. Et puis donc, on le retrouve en Exode 15. Et en Exode 15, c'est intéressant, je vais quand même vous en faire un peu la lecture. Donc c'est le cantique, ou le psaume, qui suit la traversée qui a été racontée au chapitre 14. Donc on le vit de façon liturgique. Exode chapitre 15, allez, je vous lis à partir du verset 3. « L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. » Oui, parce que dans la mer, on meurt. « Ces équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les flots les ont couverts, ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Attention, tu déchaînes l'ardeur de ta colère et elle dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une masse, les flots se sont durcis au cœur de la mer. » Donc vous voyez, là on a les mêmes termes que dans Jonas avec le théome, l'abîme, etc. Oui.
On voit le gars tout au fond, empêtré dans les algues.
Ouais, mais c'est exactement ça.
Ouais. Ouais,
ouais. Et du coup on retrouve l'angoisse terrible du psalmiste. Le psalmiste il sent ça, vous savez, quand on est comme enchevêtré. Oui, et des fois on dit qu'on est pris dans une nasse, on est happé par le fond, vous voyez, c'est comme si on voyait bien tout ce qui est en train de nous entourer, de nous attirer irrésistiblement. Et en fait, c'est une expérience de la noyade. Mais quand on dit on peut se noyer dans un verre d'eau ou dans les problèmes de la vie quotidienne, bah c'est exactement ça en fait. On a l'impression que le niveau monte et qu'on ne va pas s'en sortir en fait. Et quand on regarde un peu la dynamique de ce psaume jusque-là, et qu'on pense à Genèse 1, eh bien en fait on est à l'inverse de Genèse 1. On est dans un texte de décréation. Genèse 1 rend le tohu-bohu vivable, et là ce qui était vivable devient un tohu-bohu, et on retourne au théome, c'est-à-dire l'abîme, et puis finalement il y a même le shéol, c'est le séjour des morts. Au fond, la vie n'est plus possible. Et ça, c'est l'expérience d'être. Aujourd'hui, les jeunes disent on est au bout de sa vie. Bah, Jonas, il est au bout de sa vie. Donc c'est le mouvement inverse de la création. Et ce qui est intéressant en hébreu, c'est que souf, donc le jonc, donc je vous rappelle, hein, vous l'avez à droite, près du numéro 6 finalement, hein, trois lettres. Vous savez, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de vocalisation dans le texte hébreu. Souf et sof, en fait, c'est le même mot. Et sof, ça veut dire la fin, F-I-N. Et donc, la mère des joncs, c'est aussi, ou la mère du jonc d'ailleurs, la mère du jonc, c'est aussi la mère de la fin, F-I-N. Ça veut dire l'impasse. C'est fini, c'est la fin de l'histoire. Et c'est ça qui est remarquable dans le livre de l'Exode. C'est quand on est à la fin de sa vie, ça peut encore s'ouvrir. Ça peut encore se fendre. Les impasses peuvent se fendiller. Et c'est ce qui se passe pour notre Jonas ici. Il pense être au terminus, à la fin de l'histoire, et en fait, non. Le verset 7, c'est le moment où voilà, on est vraiment au tréfonds. Voilà, il n'y aura pas plus bas, je vous rassure, c'est fini. Avec le verset 7, on a touché le dur. On peut remonter du fond de la piscine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas lu de psaume, je vous lis le psaume 18. Psaume 18, verset 16. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Les fondements du monde, c'est ça en fait, c'est le tréfonds, c'est, Des fois, je crois que c'était écrit les racines des montagnes. Ou c'était, c'est Colette qui nous l'a lu, je crois que c'était racines des montagnes au verset 7, non ?
Racines des montagnes.
Voilà. Ouais, c'est ce qui est allé le plus loin possible.
Lui, il dit les ancrages des montagnes.
Voilà. C'est, vous imaginez Venise avec ses pieux, bah, c'est au bout des pieux. Quoi, voilà. On ne peut pas aller plus bas. Donc, vous voyez, il est descendu. C'est encore le verbe yarad qu'on avait retrouvé plusieurs fois au chapitre 1. Alors, là, il est vraiment descendu au bout du bout. C'est la descente en flamme.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que finalement le livre de Jonas, c'est un peu une actualisation des psaumes ?
Oui, c'est une mise en récit des psaumes.
Oui.
L'actualisation, c'est vous qui allez la faire, en fait. L'actualisation, elle se fait aujourd'hui. Mais Jonas, c'est un peu une incarnation, une scénarisation. Une scénarisation.
Oui, oui. C'est le psaume 116 aussi.
Oui, certainement.
Ouais, parce qu'il est question des liens de la mort m'avait enveloppé. Et il parle aussi du Sheol et tu m'as fait remonter. Donc,
voilà.
On a exactement le même
processus. Même et voyez, donc c'est bien un processus mort et résurrection. Et ouais, dans une certaine mesure, si vous voulez en faire une lecture baptismale, vous y êtes autorisé. Bon, là, il est un peu à sec quand même. Il n'est pas tout à fait dans l'eau qui mouille, mais vous voyez, c'est le même. C'est l'idée d'être noyé et d'être relevé, et d'être sauvé, et d'être un homme neuf. Et ça va être un homme neuf, notre Jonas. Et ce qui est magnifique, c'est quoi au verset 7 ? Je vous fais un peu mariner parce que peut-être que vous allez le trouver, donc je vous laisse. Qu'est-ce qui montre que ça y est, c'est gagné au verset 7 ? Non, c'est pas ça. Vous êtes trop optimiste. Alors, ça, c'est la conséquence d'autre chose. Pour le pasteur que je suis, ce qu'il y a de plus admirable, c'est pas ça. Quand je dis c'est gagné, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose ? Non, même pas. Vous allez comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Non, vous êtes très pieux, c'est mignon, mais c'est plus prosaïque que ça, en fait. Vous cherchez des trucs sophistiqués, c'est beaucoup plus simple. C'est simple comme l'Évangile. Je sais que vous n'allez pas y croire, c'est un seul mot en hébreu et c'est deux mots en français. Non, mais c'est en français, c'est... Non, ça c'est pieux, tout ça, c'est bien. Tout cela est très très positif. Tout ce texte est très positif. Mais le coup d'éclat, ce qui montre que ça y est, c'est gagné. Non. Bon, je vous le donne. C'est quand il dit « Je suis descendu ». Il assume le fait que c'est lui qui est descendu. Il assume, il prend ses responsabilités. Il reconnaît sa culpabilité éventuellement, vous voyez. Voilà. J'ai été rejeté loin de tes yeux. Vous voyez, il était encore en train de se défausser. Il ne prenait pas la pleine mesure de ce qu'il avait fait. Là, il assume. Et quand on commence à assumer, c'est gagné. Et je crois que la vie spirituelle, c'est nous rendre capables d'assumer. Vous savez, la part que l'on prend dans notre malheur. Pour guérir du malheur, il faut repérer la part que l'on prend dans le malheur. Et la vie spirituelle, c'est ça, c'est être face au réel, c'est ne pas être dans le déni, c'est pas se raconter des histoires, c'est pas reporter sur Dieu ce qui nous incombe, etc. Ouais, mais on le voit, c'est un combat, bien sûr que c'est difficile. Mais quand on y arrive... Vous savez, quand un alcoolique dit « je suis alcoolique, je ne peux pas m'en sortir », c'est le bon début pour la rémission, la rédemption. Il sera toujours alcoolique, mais il va peut-être pouvoir commencer à s'en sortir et être abstinent. Voilà. Il sera alcoolique toute sa vie, mais au moins il sera abstinent et il pourra reprendre pied dans sa vie, dans son histoire. Et pour toutes les addictions, c'est comme ça. Quand on est honnête, vous voyez, la sincérité, de ce point de vue-là, c'est vraiment magnifique. Et c'est ce qu'il y a de plus bouleversant, en fait. Bon, mais c'est bien aussi que tout, que les mauvais jours soient derrière, c'est bien qu'ils disent « mon Dieu », ça.
Okay. Et puis il passe du passé au présent, ça c'est très important. J'ai été rejeté, donc victime, je suis victime en fait, et je suis descendu.
Oui, C'est un peu un passé quand même. C'est un léger passé composé. Mais on va s'orienter sur effectivement une perspective d'avenir. Je suis d'accord. Il est un peu dans la relecture quand même. Vous voyez, tu as fait monter de la fosse. Bon.
Tu m'as relevé.
Oui. J'ai été assez précis sur le temps des verbes parce que effectivement le passé et le futur jouent beaucoup. Donc, par exemple, le verbe monter, il est conjugué au futur converti. Donc, ça devient un passé.
Ah,
voilà. C'est wotahal. Allah, c'est monter. Tahal, tu fais monter. Et puis wotahal, tu as fait monter. On met un « et » qui transforme ce qui va arriver en « ce qui est arrivé ». Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est ce qu'on appelle un « ifil », « tu as fait monter ».« Ifil », c'est un factitif, c'est-à-dire qu'on fait faire. Tu vois, donc, ce n'est pas « tu as monté ». C'est pas tu m'as monté, c'est pas toi-même, c'est tu as fait monter. Donc tu as utilisé quelqu'un pour faire monter. Il a utilisé quoi au fait ?
Le poisson.
Ben, le poisson. Voilà. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment un rite initiatique où on voit que Dieu est à la manœuvre sans être impliqué. Et je trouve que c'est intéressant sur le plan théologique parce que nos prières, c'est souvent une demande à Dieu d'agir, j'allais dire une théologie biblique, bonne théologie, c'est pas Dieu qui agit, c'est Dieu qui rend possible, ou qui fait faire, pour éviter d'imaginer que Dieu retrousse ses manches, avec ses petits doigts il va faire des choses, et que Dieu soit un personnage avec des petits bras et des petites manches, etc. Voilà. Prier change les choses, parce que, du coup, ça intègre Dieu dans l'équation de notre histoire, sans qu'on en soit à devoir imaginer que Dieu intervient comme nous intervenons dans cette étude biblique, par exemple. Donc, si vous voulez la remontée des enfers, vous avez ça aussi dans l'Odyssée. Et c'est le chant 10 à partir du verset 490, si vous voulez, du vers. Et on a aussi le mythe sumérien d'Innana. C'est pour vous dire que, bien sûr, que les rédacteurs bibliques piochent dans la littérature disponible pour composer un récit qui est propre, qui a une sorte de singularité, mais qui utilise des formes. Et puis, vous voyez, Jonas va être repris par notre Carlo Collodi, qui lui-même sera repris par Walt Disney. Et puis, entre-temps, il aura été repris par Mathieu et Luc, etc. Bon. Bah, ça, c'est la vie.
Par des poètes comme Hölderlin, prennent cette image. Je suis descendu, je n'ai pas osé le dire, mais justement, il explique comment cette onde descend, en quelque sorte, et puis on arrive à sa vie.
Oui. Bah, oui, bien sûr. Ensuite, le verset 8. Je vous ai mis l'âme dans la traduction parce qu'il y a nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Des fois, c'est traduit par l'être. Je ne sais pas ce que vous avez au verset 8. Donc, si vous avez des Bibles, comment ils traduisent ça ?
Il ne parle pas de son âme.
Je ne pense pas qu'il parle d'âme, mais ils vont dire ma personne ou
mon âme. Alors que je défaillais, ouais. Je me suis souvenu du Seigneur, ma prière est parvenue.
Oui, donc c'est je. Oui.
C'est mon âme. Mon âme sur moi. Pourquoi sur moi plutôt que en moi ? Ça met l'âme dans l'extérieur.
Là, c'est. Oui, mais c'est parce que on peut comprendre l'âme comme cette tension entre la personne et Dieu.
Et c'est sur moi.
Genre de bénédiction.
Ça serait pas une bonne analogie, je pense. Même si effectivement c'est écrit Ali, et Alice, très littéralement, c'est sur moi.
Bon. C'est contre moi aussi, quelquefois.
Oui, ça peut être.
Contre moi, quelquefois, c'est au sujet d'eux, c'est compliqué. Hmm. Hein.
Mais je pense qu'il faut imaginer, vous voyez, cette tension vers Dieu, et la tension relâche, et du coup, on reçoit tout sur nous. Vous êtes. comme si l'élastique lâchait en quelque sorte, et on le reçoit en pleine figure.
Là, ils le traduisent par au moment où la vie me quittait.
Ouais. Oui, parce que souvent l'âme c'est compris comme la vie, l'être, la personne. Et du coup, vous voyez, c'est le fait que. On peut le comprendre comme vous êtes sous perfusion, on retire la perfusion, et en fait, du coup, les activités personnelles cessent au fur et à mesure. Une sorte de lenteur. Et je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est venue vers toi dans le temple de ta sainteté. Vous voyez, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de temple là qui soit, mais il y a la reconnaissance de cette proximité, ce qui fait bien du poisson un temple. Et puis, ce n'est pas autre chose que le temple de ta sainteté, hein, le kadosh. Donc là, c'est kachera, donc c'est vraiment ta sainteté. Et la sainteté de Dieu, elle se trouve dans le Saint des Saints, en fait, le kadosh HaKodashim. Et donc, on fait du poisson ce lieu très particulier, le Saint des Saints.
Excusez-moi.
Oui, bien sûr.
Je voudrais revenir là au verset 3.
Oui.
Parce que je plaignais de détresse pour moi, donc, et m'a vers l'Éternel, il m'a répondu. Ensuite, donc, c'est troisième personne. Et puis après, il parle en jeu toujours. Et puis après, c'est « Tu as entendu ma voix ?»
Oui.
Et déjà, en fait, il y a la réponse. Parce que très souvent, c'est vrai, dans les psaumes, on la voit quelquefois en première,
oui.
En premier verset. Mais il y a à chaque fois, en fait, la personne, en fait, va invoquer Dieu pour dire, en effet, sa détresse et... Souvent, c'est le salut qui se passe après. Enfin, il y a toute la description en fait, de l'angoisse. Et puis après, donc, cette réponse, et qu'on voit aussi au verset 7, « Tu as fait monter de la fosse ma vie, éternel mon Dieu », on voit déjà le salut.
Oui.
Le salut est déjà présent dès le début.
Oui.
Donc finalement, dans Jonas, ce psaume, comment dire, on ne voit pas tellement la progression. Il y a déjà, dès le départ... Il a déjà déjà cette confiance, en a plus que la confiance, il a déjà cette réponse.
Ouais, c'est en lui. Comme finalement un psaume écrit après coup. C'est-à-dire que c'est un texte écrit après les événements, et donc il y a des choses dont il peut parler au passé, alors que dans le déroulement, ça devrait venir plus tard. Oui. Par exemple, comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de psaume, le psaume 22. Vous savez, c'est le psaume de dérélection. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc. C'est au verset 22 qu'on a ça, à savoir le psalmiste qui dit « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle », après avoir évoqué tous ses malheurs, et puis « Tu m'as répondu ». Donc il faut 22 versets. Alors que là, dès le départ, on sait que ça va bien se passer. Mais néanmoins, à l'intérieur, on voit ce renversement. Et ce renversement avec le « je suis descendu ». C'est moi qui ai pris la décision de descendre. Vous savez, c'est très important, je reviens sur cette histoire de décision de descendre, parce qu'en fait, s'il y a une culpabilité, elle est exprimée là. Et à partir du moment où il y a une culpabilité, en fait, on peut se reconstruire. Parce qu'il y a quelque chose qui nous appartient. Et on ne mesure pas à quel point quelqu'un qui exprime sa culpabilité est quelqu'un qui... est en fait en bonne voie parce qu'il peut prendre conscience qu'il est capable de certains accomplissements. Alors bien sûr, ce sont des accomplissements négatifs, mais au moins, il y a quelque chose qu'il a fait qui lui appartient. Et souvent, on a l'impression qu'au fond, on n'est plus rien, qu'on est inconsistant, qu'on est comme transparent. Et bien là, on retrouve un peu de consistance. Ce n'est pas une consistance heureuse. Il faudra changer la polarité, mais au moins, on peut se reconstruire là-dessus. Et des fois, c'est vrai aussi pour les victimes. J'en discutais avec un psychiatre qui me disait que, par exemple, des femmes victimes de viol avaient un très grand sentiment de culpabilité, ne serait-ce que le fait d'avoir été là. Elles se disent « si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu de problème ». Et au fond, lui, ça ne l'inquiète pas plus que cela, parce que c'est là-dessus que l'identité va pouvoir se reconstruire. En disant « oui, au fond, ce n'est pas que j'ai ma part de responsabilité, mais au fond, tout ne m'a pas échappé ». Je suis un être avec une certaine densité et je suis partie prenante de ce qui arrive. Donc je peux réorienter ma vie dans un sens qui me sera positif, qui sera satisfaisant, mais j'en ai la capacité. On pourrait aussi dire beaucoup de choses sur « je me suis souvenu », Zakhar. Vous voyez, peut-être que on pourrait se dire que c'est ça la vocation du croyant, c'est de se souvenir de Dieu ou de faire mémoire de Dieu. Et quand il n'y a plus rien qui va, ne pas oublier Dieu, c'est peut-être notre responsabilité pour la collectivité. Quand on peut se dire oh là là, y a, vous voyez, on a tendance à, je sais pas, il y a des situations où au fond on voit plus trop d'issue, on est prêt à faire un peu n'importe quoi, disons. On est prêt à s'en remettre à des charlatans pour ceci ou pour cela. Faire mémoire de Dieu, c'est au fond garder un fond de rationalité et c'est ne pas s'en remettre à des mécanismes qui seraient peut-être encore pires que ce qu'on a connu jusque-là. Donc, l'anamnèse... et pour autant, est-ce que Jonas se souvient de ce, la mission que Dieu lui a confiée? C'est pas sûr. Pour l'instant, il s'est juste souvenu de Dieu. Ouais. Pour l'instant, il n'est pas encore à se dire « Ah, mais au fait, il fallait que je m'occupe des Ninivites. » Le verset 9, c'était un petit peu compliqué à traduire. Parce qu'en fait, ce que je voulais vous dire, à défaut de vous l'écrire, c'est que le premier mot, c'est construit sur le verbe « shamar »,« garder ». Donc, les « mesharim » sont les gardiens. Mais c'est un verbe qui est au piel. Le piel, c'est un intensif. Donc, en fait, j'avais envie de vous écrire les intégristes. Mais je me suis dit, je ne vais pas vous l'écrire, il ne faut pas que j'écrive ça. Mais en fait, c'est ça. C'est les intégristes. C'est-à-dire ceux qui gardent jalousement, vous voyez, qui sont crispés. On est sûr que rien ne va partir. Voilà, on est tranquille. Ça ne va pas bouger. Là, ça ne va pas bouger. Les intégristes, c'est ça. C'est que ça ne va pas bouger. Et ce sont les gardiens des fragilités vaines. Evel, c'est comme Abel, c'est la buée. C'est extrêmement léger. Et puis, Shaweh, c'est la vraie vanité. Par exemple, dans le Kohelet, c'est Evel qui est utilisé. Il ne faudrait pas traduire par vanité. Il faudrait plutôt traduire par précarité, par fragilité. C'est ce qui risque de s'évanouir dès qu'on souffle dessus, vous voyez. Donc, ce n'est pas vain au sens où ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Non, c'est que ça peut disparaître très facilement. Du jour au lendemain, on peut ne plus être vivant. C'est ça que dit Kohelet. Hein. Donc, il ne faut pas tarder pour bien en profiter. Là, il y a le fait que c'est fragile, précaire, et puis il y a le fait que c'est vain, au sens où ça ne sert vraiment à rien. Et c'est l'idée des gens qui sont crispés sur n'importe quoi. Enfin, au sens des intégristes qui ont des convictions extrêmement fortes, mais ces convictions, c'est nul. C'est 0, nul. Voilà, 0, nul. Mais alors... pour eux, ils tiennent mordicus. C'est ça ou rien, ou la mort. Bon. Et du coup, vous voyez, quand on est crispé comme ça, en fait, on est hermétique à la grâce. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent leur grâce. Resed, c'est la grâce. Ça a été traduit par miséricorde, je crois, dans la traduction Louis II. Vaine
fragilité aussi, c'est dans certaines traductions second, c'est traduit par idole.
Oui, voilà. Les idoles, c'est ça, en fait. C'est une bonne périphrase.
Simulacre de Dieu, mais qui ne tiennent pas.
Exactement. Et donc, mets-moi par une voie d'action de grâce, je sacrifierai pour toi, je rendrai ce que j'ai voué pour le salut de l'Éternel. Vous voyez, là, on est vraiment au futur. Là, on est vraiment en train de se projeter. Et du coup, il sacrifie ce qu'il n'avait pas voulu faire jusque-là. C'est-à-dire que ça avait été une des possibilités faites par les marins au verset 16 du chapitre 1. Les sacrifices faits par les marins. Et maintenant, lui, il se met en situation de faire un sacrifice, et c'est un sacrifice d'action de grâce. Alors, en hébreu, donc, au verset 10, vous avez le premier mot, « Wehani »,« mémoi »,« Bekol », »,« dans une voix »,« Toda ». Toda », c'est un mot que vous pouvez apprendre par cœur, parce qu'on l'utilise en hébreu moderne pour dire « merci ». Toda Rabba, merci beaucoup. Merci nombreux. Voilà. Toda, ça veut dire merci. Donc, action de grâce, disons. Ou dans la voie du remerciement. Voilà. Et donc, Esbera, Lare, c'est je sacrifierai. Je ferai les sacrifices, et donc des sacrifices d'action de grâce. Donc, vous voyez, c'est vraiment une confession de foi. Et ça finit par une belle formule. Le salut de l'Éternel, c'est une formule aussi qu'on trouve dans d'autres psaumes. Ben, en fait, vous allez comprendre. Le salut pour l'Éternel, en fait, c'est « Salut Éternel ». Vous pouvez le dire comme ça. Mais oui, en fait, « salut », ça vient de « salut », donc « yasha », sauver. Et là, on a le verbe « yasha »,« yashotawa », le « yahu », donc le salut pour l'Éternel. Donc, c'est à la fois le salut et du côté de l'Éternel, donc c'est Dieu qui est la source de l'Éternel. Si on cherche le salut, c'est du côté de l'Éternel qu'il faut rechercher, mais c'est aussi le salut tel qu'on se salue. Si on se salue, c'est une salutation au sens de « on vous souhaite le salut ». C'est-à-dire que c'est extrêmement positif. Et le salut, du coup, devient une caractéristique de Dieu. Dieu, c'est celui qui sauve. Voilà.
Pour le salut que l'Éternel m'a accordé.
Voilà. Et donc, on en arrive à la terre. Il y avait Talassa. Et maintenant, c'est la terre, Yabasha. Yabasha. La terre sèche, la Yabasha, qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Alors, l'Éternel dit, et en fait, on ne sait pas ce qu'il dit. L'Éternel dit au poisson. Oui, alors en fait, c'est Wayomer, c'est plutôt le verbe dire. En principe, c'est Wayomer, Yahou, le Gad, et puis les morts, en disant, mais là on n'a pas de en disant quoi, mais le poisson visiblement a compris et donc il rend, au sens strict du terme, il rend Jonas. Il y a un autre passage biblique où on a cette bizarrerie, donc quelqu'un qui dit, deux points, ouvrez les guillemets, et on n'a pas, c'est Cain et Abel. Il y a Cain et Abel qui se rendent au champ pour discuter. Cain dit à Abel, deux points, ouvrez les guillemets, et il le zigouille. L'absence de parole. Donc vous voyez, il y a ces deux choses très différentes entre Cain d'une part et Dieu d'autre part. Quand il n'y a pas de contenu, du côté de Dieu, ça favorise la vie. Quand il n'y a pas de contenu du côté de l'homme, ça favorise la mort. Peut-être parce que, en fait, Dieu est parole. C'est une hypothèse que reprendra un certain Jean. Et en fait, tout se joue par la bouche, puisque, évidemment, c'est par la bouche du poisson que ça se joue. Donc, vous voyez, il y a plein d'usages différents de la bouche. Choisissez votre camp.
Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que tout ce chemin de Jonas a été fait parce que, quelque part, il se sentait dans un temple et isolé de la tempête.
Oui. Oui, il a été sauvé comme ça, oui.
Oui, c'est-à-dire ça se fait, comme il le dit, à l'intérieur du... dans le temple de ta sainteté.
Exactement.
C'est-à-dire il était protégé de la violence de la mer, enfin de la mort. En
fait. Oui, épargné, protégé, le plus dur a été mis derrière lui.
Mis à part.
Dans une certaine mesure mis à part.
Pour pouvoir aller après.
Oui, un peu comme dans une arche de Noé, vous voyez.
Ouais.
Pour pouvoir retrouver la terre sèche.
Ouais, pour pouvoir retrouver la terre. Il avait voilà. Besoin de cette...
Oui, bien sûr. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. La partie sèche, en fait, la Yabasha. C'est le même terme. Et donc, c'est à cette condition que la vie est possible. Et je vous avais dit, ce que nous raconte Jonas, c'est un peu une sorte de décréation. Et bien là, on retourne à la création. On est dans un acte de création et de naissance, en fait. Vous voyez, à la fois la naissance, il est expulsé, dans le bon sens, il vient au monde. Et puis, pour ce qui est de la suite, et ben, ça sera pour la fois prochaine.